Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, où on vous parle d'émissions de Marvel, de Star Wars, de plein de trucs avec des punch et des lasers et des super. Et c'est totalement approprié parce que pour cet épisode, on a, comme toujours, quelqu'un de vraiment super, à savoir Johan. Comment ça va, Johan?
Bonjour, ça va super bien. Moi, je vis une très belle vie en ce moment. Je suis en vacances. Il y a du Marvel, il y a du Star Wars. Bon, c'est pas forcément le meilleur Star Wars du monde, mais voilà, ça se passe bien. Il y a plein de jeux vidéo. J'ai le temps de jouer, j'ai le temps de regarder des conférences. Même s'il fait un peu chaud, cette semaine, là, c'est une très très belle semaine pour moi.
Très bien, je suis content. Oui, alors je suis intrigué par ce que tu dis sur les Star Wars, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça, on en parlera la semaine prochaine, puisqu'on parlera de la suite de Ben les Kenobi, Obi-Wan Kenobi.
Les trois prochains épisodes.
Ouais, et aujourd'hui du coup, je me suis pas présenté, je suis Patrick. Bonjour à tous. et on a du coup cette semaine un truc qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire la série Miss Marvel Kamala Khan sur Disney+, avec les deux premiers épisodes. Je dis qu'on l'attendait depuis longtemps, on en parle depuis un moment, hein, et c'était un truc à pas rater. Parce que on va peut-être refaire un petit topo sur Miss Marvel. Je pense que les auditeurs réguliers de l'émission la connaissent. Mais c'est un personnage extrêmement populaire de l'univers Disney, enfin de l'univers Marvel, qui est apparu dans les comics il y a vraiment pas longtemps, puisque ça fait moins de 10 ans, c'est en août 2013, et c'est un personnage qui fait partie vraiment de cette nouvelle génération de super-héros qui sont vraiment devenus populaires, je dirais même après même que la série des films du MCU ait commencé. Donc c'est très récent, et ils sont aussi censés incarner un petit peu plus une génération plus jeune de jeunes lecteurs de comics et plus divers. Alors on pense bien sûr à Spider-Man, Miles Morales, il y en aurait d'autres, mais Miss Marvel, c'est le premier super-héros, je crois, hein, le premier super-héros musulman pakistanais américain. Elle est de Jersey City, donc elle est vraiment américaine, mais avec cet héritage qui joue, et j'en parle parce que ça joue un rôle assez important dans son quotidien. Et elle est en plus très jeune, là encore le parallèle avec Spider-Man est important. Elle est très jeune, elle a des problèmes d'adolescent, elle est à l'école, elle a des amis, elle a des problèmes avec sa famille, avec ses parents, etc. Et donc c'est un personnage qui a été tout de suite assez populaire dans les comics, et qui est, je crois, pas facile à adapter en série, parce que c'est quelque chose de une très différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant en série, où on était vraiment dans ce cadre super-héros, super-héroïque, avec des gens adultes qui combattent des menaces mondiales, etc. Et elle, sa préoccupation, ça va être comment est-ce que je vais pouvoir pouvoir aller à la soirée à laquelle je veux aller, alors que mes parents sont plutôt stricts. C'est le personnage, pour parler un petit peu de ses pouvoirs, même si, bon, franchement, ça représente surtout dans la série, je crois, assez peu de l'importance de chaque épisode, ses pouvoirs, mais ils sont quand même présents, évidemment. Dans les comics, ses pouvoirs, c'est que elle est en fait une inhumaine, c'est-à-dire qu'on était à une période où la Marvel ne voulait pas mettre en avant ni les Quatre Fantastiques ni les X-Men parce que, bah, dans au niveau des films, qui sont ceux qui rapportent le plus d'argent, les droits n'étaient pas à Marvel eux-mêmes. Ils étaient à la Fox. Et la Fox, en plus, faisait pas un très très bon travail avec ses licences. Et donc, dans les comics, ils ont complètement effacé toutes ces familles de personnages. Et donc, ils ont fait de Kamala Khan, alors que ça aurait été évidemment une mutante, et ben ils en ont fait une inhumaine, c'est-à-dire que, suite à différents événements, les inhumains, c'est... bon, génétiquement, ils sont différents, et quand ils rentrent dans le Terrigen Mist, la brume du Terrigen, eh bien, ils débloquent leur pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé suite à des événements sur Terre dans les comics, et elle, donc, elle a découvert ses pouvoirs qui sont un petit peu Mister Fantastique. On va dire, elle est élastique, elle peut, disons Mister Fantastic Plus, elle peut s'agrandir, agrandir ses mains, agrandir ses jambes pour passer au-dessus des immeubles, etc., etc. Ils sont un petit peu différents dans la série.
Elle peut devenir toute petite, un peu façon Ant-Man, et elle peut aussi changer son apparence. Elle peut, ressembler à d'autres personnes. Quoi. Je ne sais plus trop à quel point elle peut vraiment se.
Bah, c'est un truc qu'ils ont fait au tout début, mais dont elle ne se sert, je crois, quasiment jamais après les deux ou trois premiers comics. Mais bon. Donc, voilà la base. On a les deux premiers épisodes sur le service de streaming Disney+. Qu'est-ce que tu en penses, Johan ?
Je suis trop heureux parce que je crois que c'est ce que vraiment exactement, c'est vraiment exactement ce que je voulais. J'avais plein d'interrogations parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, son histoire est quand même super liée aux Inhumains, même ses différents arcs dans ses comics à elle. Voilà, elle rencontre d'autres Inhumains, etc. Donc c'est quand même, tu baignes un peu dans cet univers-là qui est pas du tout repris par le MCU. Et du coup, j'étais curieux de savoir est-ce qu'ils allaient essayer d'adapter les histoires, mais en les transformant suffisamment pour les faire rentrer dans le MCU. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ou est-ce qu'ils allaient faire complètement autre chose? Mais du coup, voilà, c'est moi je m'y retrouve. Je retrouve vraiment la Kamala Khan que j'avais un petit peu imaginé dans le MCU. On est complètement dans une histoire un peu légère d'adolescent. Alors il y a pas mal de références moi qui me viennent hein, quand je vois la série. Récemment, il y a eu, je ne sais pas si tu l'as vu, Patrick, mais il y a eu Turning Red de Pixar.
Oui, tout à fait, si très très bien. Ouais.
On est complètement dans ce type en fait de récit, et je trouve que voilà, moi c'est un truc qu'on avait du coup jamais vu dans le MCU parce que du coup ça aurait pu arriver à Spider-Man. On a un petit peu de ça dans Spider-Man parce qu'il est dans un milieu scolaire, mais il n'y a pas toute cette partie justement de découverte de soi, découverte de ses pouvoirs, essayer de les faire fonctionner avec son quotidien, etc. Qui est un des thèmes qui est apprécié, je pense, hein, dans les Spider-Man en général. En tout cas, moi, c'est.
Ouais, c'est-à-dire qu'on ne les a pas eus dans le MCU, on n'a pas eu d'origin story de Spider-Man. Et, là, on...
ouais. Et du coup, là, on est servi et on est servi vraiment d'une super manière parce que visuellement, il y a un parti pris artistique qui n'est pas forcément non plus le top de l'originalité. Hein. Je veux dire, ça c'est déjà vu, hein, tout ce qu'ils font visuellement dans la série. Mais c'est super bien intégré, c'est super beau. On baigne aussi dans toute cette culture, justement, indo-pakistanaise, là, où là, moi, du coup, bah, j'ai aussi des petits souvenirs, moi, avec ma grand-mère, hein, du coup, qui est indienne. Mais du coup, je ressens, on va dire, un petit peu ce truc-là, et donc voilà, je suis vraiment, vraiment conquis. Je vais dire tout de suite, hein, les deux épisodes, moi je suis là, je suis en train de voir un de mes trucs préférés du MCU, même si j'ai conscience que, je veux dire, quand on a l'habitude du MCU, c'est, voilà, on n'a pas ce côté super épique et tout, et en fait, c'est ce dont j'avais besoin, quoi. J'avais besoin d'un truc un peu tranquille, un truc qui parle du personnage, un truc voilà qui nous permette de découvrir petit à petit Kamala dans un contexte j'espère qui va rester dans cet ordre-là un petit peu voilà à son niveau parce que du coup le côté épique et tout de toute façon on sait qu'on l'aura un jour ou l'autre il y a des films de prévus qui sont voilà, là qui seront prévus pour donc voilà donc moi je suis vraiment sous le charme total j'ai beaucoup de mal à à trouver de critiques notables. Donc, j'en ai, mais rien qui ne ternisse, on va dire, ce que j'ai pour la série pour le moment.
Je suis assez d'accord. Je suis, à vrai dire, complètement aligné avec ce que tu dis. Je suis complètement tombé sous le charme, moi aussi. Vraiment, je trouve que c'était hyper casse-gueule comme exercice. On peut évacuer cet aspect tout de suite. L'aspect, comment dire, ouvertement choix éditorial narratif de faire une super-héroïne musulmane pakistanaise, enfin pakistano-américaine, parce qu'elle, elle est deuxième génération, elle est clairement très américaine dans son quotidien. C'était casse-gueule, c'était difficile de trouver un bon équilibre, un truc qui fonctionne. Et en plus, bon, ils ont évidemment fait face à des critiques du genre mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une super-héroïne pakistanaise, est-ce qu'il y a des super-héros chrétiens hein, dans les films, machin. Alors que bon, on va même pas rentrer dans cette question, mais tous les super-héros sont chrétiens parce que sont chrétiens par défaut. Et il y a les questions de minorités non représentées, machin. Ouais. La créatrice, l'une des créatrices de Miss Marvel en comics, qui est Sana Amanat, qui est également impliquée dans la série, a dit ce qui est une évidence, mais elle disait l'un de mes buts c'était de faire une super-héroïne dans laquelle je puisse me retrouver. Et c'est sûr que c'est un truc qui manque.
J'aimerais juste ajouter un petit truc sur cet aspect-là, c'est que on a un biais culturel, c'est-à-dire que nous on vit dans une culture et on est imprégné dedans, donc qu'on soit chrétien ou pas, on se rend pas forcément compte en fait des éléments religieux de notre culture à nous. Et par contre, du coup, typiquement, il y a eu une scène à la mosquée, ils parlent beaucoup de religion, etc. Ça nous saute aux yeux parce qu'on est hors. Donc, du coup, on est hors de notre culture à nous, et donc du coup, tout ça, c'est visible. Mais tu vois, moi, j'ai vu un petit peu des discussions sur justement est-ce qu'il y avait pas forcément des discussions malicieuses, mais de poser la question est-ce qu'il y a eu d'autres cérémonies religieuses dans la MCU jusque-là. Et du coup. Faut pas remonter bien loin, on a eu Doctor Strange 2 il y a pas très longtemps où il y a un mariage à l'église. Et tu vois, ce genre de choses-là, on se dit pas au cinéma, c'est rigolo, une cérémonie religieuse. Tu vois, ça nous saute pas aux yeux parce que les religions sont complètement fusionnelles avec aussi la culture. Il y en a plein qui pratiquent des choses religieuses sans forcément être religieux parce que ça fait aussi partie du social, de comment on vit, on va dire, dans ces communautés-là. Et ça fait partie juste des traditions, etc. Pas sans forcément... Donc du coup, c'est pas évident de séparer culture et religion. Et du coup, ouais, je pense que c'est aussi pour ça que les gens n'ont pas forcément. Ça saute aux yeux des gens parce que du coup, là, on sort de la culture habituelle, celle qu'on voit habituellement. Donc je vais juste.
Socialement, clairement. Même si, bon, il faut avouer que on met moins en avant, je crois, dans les films du MCU, l'aspect chrétien, culturel évident des personnages qui sont tous par défaut plus ou moins, dans cette société plus chrétienne qu'autre chose. On n'a jamais dit, par exemple, que Captain America il a jamais embrassé sa croix, tu vois, qu'il porte en pendentif ou qu'il va aller à l'église tous les dimanches, comme c'est le cas, on l'a trouvé une ou deux fois dans les comics. C'est vrai que c'est pas autant mis en avant, peut-être avec un petit peu de délicatesse, mais on peut pas vraiment parler et traiter de la même manière de la, et je sais qu'il y a des gens qui ça va pas plaire ce genre de choses, mais de la culture qui est par défaut dominante, sans même prendre ça de manière négative, mais la culture dominante et puis une culture qui est plus minoritaire. Évidemment que tu peux pas en parler de la même manière, et je crois que c'est ceux qui veulent en faire un réel problème veulent le faire un petit peu par principe, alors que je trouve personnellement que c'est hyper bien intégré. Enfin, c'est pas du tout ni militant ni prosélyte ni quoi que ce soit. C'est juste sa vie, elle est comme ça et voilà. Et c'est plus représentatif que quoi que ce soit d'autre. C'est juste que il y a des gens qui vivent comme ça et comme tu le disais, il y a des mariages à l'église dans tous les films du monde et ça ne choque personne. Bref, bon, je crois que cette partie peut être évacuer, en tout cas la partie vaguement polémique. Il faut avouer que ça n'a pas non plus défrayé les chroniques. Hein, les gens l'ont, n'en ont pas.
On sait qui sont les gens qui systématiquement, voilà, essaye d'en faire des polémiques, tout de ça. Ouais. Voilà, moi en général, je passe mon chemin assez vite, c'est pas très intéressant.
Voilà. Donc, on en a parlé pour le principe, mais au-delà de ça, j'avoue que bah, cet aspect, effectivement, est super bien traité. Je trouve également que tout l'aspect immigrant est hyper bien traité. Tu me disais que ta grand-mère était indienne, ce que je ne savais pas. C'est marrant parce que tout cet aspect m'a, moi aussi, pas mal parlé. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis d'origine moyenne-orientale, je suis né au Liban. Et du coup, on a immigré en France quand j'étais tout petit, et la culture étrangère de mes parents est peut-être beaucoup moins, comment dire, visible dans ma famille que elle peut l'être dans la famille de Kamala Khan. Mais il y a quand même plein de choses avec lesquelles j'ai des petits atomes crochus, la mère qui a un accent, des expressions en langue étrangère, tu vois, qui pour nous sont évidentes et qui pour d'autres vont... Enfin, moi, j'ai mis un moment pour te dire, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans des émissions, mais j'ai mis un moment à me rendre compte que ma mère avait un accent tellement j'en avais l'habitude. C'est genre vers, je sais pas, 18 ans, ma mère me raconte, c'est l'histoire de la famille de Patrick, mais ma mère me dit « Ah, j'étais à la mairie pour faire telle et telle telle et telle formalité, et la dame me dit ah, mais vous avez un accent, il vient d'où votre accent, machin? Et je la regarde, je lui dis, mais un accent? Mais quel accent, de quoi tu parles? Et je me suis rendu compte à ce moment, quand j'avais 18 ans, que ma mère avait un accent, et elle a un accent hyper fort. C'est impossible de pas entendre son accent quand tu lui parles, quoi. Et du coup, la manière dont la mère de Kamala parle avec les petits accents, tu sais, elle dit « Kamala, bêta, il faut que tu fasses... » Et des trucs culturels, genre il y a Bruno qui arrive chez eux et il dit « Ah, est-ce que tu veux manger avec nous ?» Et il dit « Non, non, c'est bon. » Et la mère lui dit « Ok, t'inquiète pas, je te fais un petit truc à emporter. » Elle vient avec 40 kilos de bouffe en 2 secondes. Tu vois, ce genre de trucs, c'est des choses qui font un petit peu partie de mon background aussi. Et du coup, je suis moi aussi complètement tombé sous le charme, pour toutes les raisons que tu as évoquées, pour ces raisons-là aussi, pour la manière dont est traitée avec beaucoup d'habileté et de délicatesse, justement, cette question de la représentation de sa culture et de sa religion, qui sont, oui, pas évidentes à gérer pour que ça ne soit pas problématique, justement, dans le contexte de notre vie actuelle. Et c'est parfaitement fait. Et en plus, le fait que elle est hyper bien retranscrite, l'actrice. Je crois qu'elle a l'air un petit peu comme ça dans la vie, donc elle est parfaite. Sa vie, côté école, ses problèmes, etc., sont hyper bien retranscrits. Il y a les conflits avec les parents sans que ça soit caricatural, même avec les, entre guillemets, bullies à l'école. C'est pas caricatural non plus, ça va pas trop loin. On voit que c'est... souvent elle qui a des problèmes personnels qui font que ça affecte sa vie. Avec ses parents, elle s'engueule, mais c'est pas que ils acceptent jamais rien de quoi que ce soit et qu'ils sont complètement déraisonnables. Et l'aspect donc super-héros qui est pas mal traité avec ces pouvoirs qui sont pas évidents à retranscrire, surtout avec le changement qui, moi, maintenant, surtout après le deuxième épisode, m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait? D'où viennent ses pouvoirs? Cette question de l'origine de ses pouvoirs, ils en ont fait un enjeu dans la série et ça fonctionne super bien. Et puis, formellement, sur l'imagerie, comme tu le disais, tout cet aspect, justement, un petit peu graphique, BD, fangirl des Avengers, qui, et puis, même quand ils s'envoient des messages, on a déjà eu dans de nombreuses séries les messages SMS qui s'affichent en surimpression sur l'image, mais je crois qu'on n'a jamais vraiment vu cette intégration au décor. Alors, parfois, ils en font un petit peu trop, c'est presque difficile à suivre parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran, mais c'est tellement bien intégré avec les néons qui font des emojis, des signes dans la rue qui font ce qui se répondent. Ouais. C'est original, c'est rafraîchissant, et puis cette ambiance calme, détendue, sérieuse, mais enfin sérieuse parce qu'il y a parfois des sujets qui pourraient être problématiques, mais sans prise de tête, c'est vraiment alors. Comment dire, c'est pas au niveau de l'intensité de la qualité. Je vais pas dire que chaque scène de Kamala Khan, c'est genre le dernier combat de Endgame et que ça me fait des frissons à chaque fois. Mais Donc, c'est pas l'intensité qui est à fond, mais la qualité est super haute sur tout, quoi. Et je trouve que tout est réussi. Il y a pas, comme toi, tu le disais, il y a pas de point faible. Donc, je suis surpris et delighted de ces deux premiers épisodes de Miss Marvel, quoi.
Ouais, et du coup, ça met la barre quand même assez haut, parce que j'ai même pas regardé combien d'épisodes il y avait. Là, on voit qu'il y a quand même un début d'intrigue un peu gouvernementale qui commence à se développer. Mm. Mais du coup, voilà, est-ce que ça va continuer sur cette lancée-là? J'espère. Mais en tout cas, ça en fait. C'est vraiment déjà un de mes trucs préférés du MCU.
Je suis assez d'accord. Est-ce que tu veux qu'on parle rapidement des épisodes? Là, on a donné nos impressions générales, mais des deux premiers épisodes, du coup, on en a déjà pas mal parlé, mais...
Ouais, il y a quelques aspects un peu spoilers qu'on pourrait un petit peu développer, donc...
Ça marche.
Je pense que ce soit ses pouvoirs ou les autres sous-intrigues qui émergent.
Bah très bien, écoute, alors donc si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est maintenant qu'il faut quitter l'émission. Donc... Premier épisode, Kamala, qui est donc cette jeune fille de 16 ans qui est super méga fangirl des Avengers. Et c'est marrant parce que même cet aspect est bien retranscrit, parce que tu dis, mais évidemment, si on est dans ce monde-là avec des super-héros et ce qui s'est passé dans le monde, il y a évidemment des gens, tu vois, c'est les héros de notre temps, des gens qui sont super fanzous de Ant-Man et de tous les Avengers. Et clairement, et elle fait ses petites chaînes YouTube et ses petites animations, ouais. Et tout ça, mais...
Est-ce que tu avais vu l'autre film d'animation, Mitchells versus The Machine?
Je crois que je l'ai vu, mais je m'en souviens à peine. Oui, je l'ai vu, mais...
Du coup, l'intro, c'est exactement ça, quoi. C'est la même, un peu la même génération. C'est une jeune fille qui est fan de cinéma et fan de... elle est fan de cinéma, et donc ça commence par justement ces vidéos YouTube de fans avec du collage, avec plein de choses comme ça. Donc du coup, je me suis demandé si c'était aussi une inspiration, mais du coup, ouais, c'est ça, elle a sa chaîne YouTube à 8 vues là, de chaque il y a tous ses copains qui doivent regarder, elle fait un travail monstrueux pour ses vidéos, je trouve, mais,
ouais,
mais
c'est coup, quand même beaucoup, ouais, de boulot, hein.
Et du coup, dans cette intro là, on apprend comment est-ce qu'on sait tout ce qui s'est passé à Endgame. Tout a été raconté par Ant-Man dans son podcast.
Ouais, Big Me, Little Me, le podcast. Ouais, j'aimerais bien le trouver, ce podcast. Hein. J'ai cherché sur Apple Podcasts, il n'y est pas.
Immédiatement, je me suis posé la question s'ils n'avaient pas fait le truc de sortir un épisode ou deux pour... Tu sais, comme
ça. Ah, écoute, en fait, c'est pas vrai, j'ai pas cherché, mais je suis sûr que s'il existait, on en aurait entendu parler.
Ouais, c'est certain. Et du coup, ouais, comme tu disais, cette présentation de fans, là, ça marche bien, on comprend tout de suite. Enfin, je trouve que ça pose pas mal de choses, quoi. Et en même temps, ça... Alors, parce que du coup, ça j'ai revu l'épisode, le premier épisode avec ma belle famille qui était là. Et du coup, eux n'avaient pas suivi forcément le reste du MCU. Et du coup, c'était assez efficace pour présenter un petit peu l'univers de ce qui s'était passé, du gros méchant, de la...
Je suis à chaque fois absolument émerveillé par la manière dont ils réussissent à réexpliquer les choses pour les gens qui n'ont pas suivi ce qu'il y avait avant, de manière originale et intéressante, même pour les gens qui ont suivi. Et là, en l'occurrence, effectivement, ça sert complètement à ça. Et en plus, ça m'a fait réaliser que le MCU a commencé en 2008. Maintenant, il va commencer à y avoir des jeunes qui ont peut-être l'âge de Kamala ou un peu plus jeune, on va dire, je sais pas, 12 ans, qui n'ont jamais vu les... C'était quand Endgame? C'était 2019. Qui n'ont pas vu en grandissant ces films-là et qui vont découvrir le MCU avec, peut-être, par exemple, Kamala Khan, parce que ça les intéresse, elle a 16 ans et elle parle de problèmes à l'école et que ça leur parle plus que un super-héros de la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, super-soldat. Et il y a des gens qui vont, comme elle, en l'occurrence, elle, Kamala Khan, comment elle s'appelle, Iman Vellani, ouais. Tu vois, elle a 16 ans à peu près, je crois, elle a grandi avec Miss Marvel, qui est sortie en 2013, c'est marrant, elle était fan de Miss Marvel, et voilà, elle est née en 2002, elle a 19 ans, donc elle est un peu plus âgée que son personnage, mais, enfin maintenant 20 ans, mais elle a grandi sans, pas au début du MCU, quoi. Elle a grandi, elle a commencé à lire Miss Marvel quand elle avait une dizaine d'années, sans doute. Et elle était, c'est mignon, elle était hyper fan de Miss Marvel. En tout cas, c'est ce qu'elle dit.
Ouais, ils font de la com autour de ça, mais c'est moi, je peux pas m'empêcher d'être touché par cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une actrice, elle sort du lycée, elle est fan de Miss Marvel, elle se déguise déjà en Miss Marvel pour Halloween et tout ça. Et puis elle décroche ce rôle et tout, et puis ils ont filmé le moment où ils lui ont annoncé, etc. Donc c'est assez
fou. Et elle parle de la manière, là encore, parce que c'est un aspect hyper important de Miss Marvel. Elle parle de la manière dont elle était émerveillée du fait que il y a une super-héroïne qui lui ressemble, qui tu vois, ce genre de choses. Bref. Bon, l'intro, c'est la chaîne YouTube de Kamala Khan. Et puis, on a les premières relations avec ses parents. D'ailleurs, entre parenthèses, dans l'intro, elle est quand même hyper ADHD. Hein. T'as l'impression qu'elle ne sait pas garder son attention sur un truc de seconde, qu'elle a le truc... Enfin bon. Mais, et puis, les premières relations avec les parents, qui là encore sont super, super bonnes, avec le frère qui est super sympa. Et, c'est marrant parce que là encore, je ne peux pas m'empêcher d'admirer à quel point il ne se détourne pas d'aspects qui pourraient être controversés, comme par exemple le frère qui est hyper religieux, qui prie tout le temps, et le père qui lui dit « mais arrête de prier, qu'est-ce qu'il lui dit, si tu viens pas manger, tu vas t'évanouir, ouais. » ou je sais pas quoi. Et c'est fait avec beaucoup de légèreté, c'est super mignon. Et pourtant, tu vois, dans d'autres contextes, un frère hyper religieux, ça aurait pu donner quelque chose de très différent. Pareil, les scènes à la mosquée, etc. Et même les scènes à la mosquée, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais quand ils disent « non mais c'est bon, alors les mecs, les hommes, ils ont leur truc hyper clean, et chez nous, il y a des fuites avec de l'eau qui nous tombe sur la tête, qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Et tu vois, c'est pas qu'ils ne remettent pas en question... des questions qui peuvent être problématiques dans leur quotidien. C'est pas qu'ils disent tout va bien, il y a aucun problème, machin. Mais et bon, bref. Bon, on en reparlera. Les relations avec la mère et le père hyper mignonnes et la présentation de Bruno et le plan d'aller à AvengerCon pour montrer leur costume de... Enfin, surtout son costume de Captain Marvel. Est-ce qu'il y a un moment en particulier dans le premier épisode que tu veux évoquer?
Alors, on peut déjà évoquer un petit peu, du coup, ce qui s'est passé à l'AvengerCon, son histoire de pouvoir, je sais que ça a gêné des gens, et moi-même, ça m'avait gêné, parce que du coup, alors, on a cette histoire de bracelet qui vient donner des pouvoirs là où c'était un composant d'elle-même, on va dire. Et ça posait pas mal de questions. Donc, on finira d'en parler. Bon, on remarque là maintenant, c'est spoiler. Les gens ont vu les deux épisodes quand même. Et du coup, cette question de est-ce que les pouvoirs viennent d'elle ou pas, ça peut paraître anodin comme, on va dire, comme discussion, mais c'est quand même un petit peu important par rapport à ce que tu peux développer comme histoire et la signification que ça peut avoir, quoi. Parce que du coup, là, t'as un peu l'impression que les pouvoirs sont livrés par FedEx. Là, hop, elle reçoit un colis, elle met un bracelet, et hop, c'est parti.
Heureusement, sauf que dans le deuxième épisode...
Voilà, heureusement, on commence à sous-entendre que c'était juste un truc qui l'a débloqué quelque chose, quoi. Mais que c'est quelque chose qui est bien en elle. Mais du coup, j'avais un peu peur de ça, initialement, quand j'avais vu le premier épisode. C'était vraiment le point, on va dire, qui me gênait un peu. Parce que du coup, ça change... Parce que... Quand tu parles d'une adolescente, effectivement, tu as des choses, voilà, tu as plein de parallèles à faire entre les choses qui changent en toi, le corps qui change, et aussi toute la problématique que ça peut apporter de qui on est quand on a des thématiques religieuses qui sont mêlées. Et le fait que ça soit extérieur, j'avais peur que tout ça soit un petit peu plus, un peu moins bien amené, un peu moins bien chargé de sens, on va dire. Mais du coup, voilà, rassuré finalement que assez vite dans l'épisode 2, ils essaient de comprendre d'où viennent les pouvoirs et déjà on commence à indiquer que la force, l'espèce de truc cosmique vient bien de son fort intérieur à elle et pas du tout du bracelet. Donc voilà.
Et d'ailleurs, ils se servent de certaines scènes pour faire monter la tension entre la mère et la fille, en référence à la grand-mère ou même à l'arrière-grand-mère quand on l'apprend comme on l'apprend dans le deuxième épisode. Et je trouve que ces aspects aussi sont bien gérés parce que ça sert évidemment le mystère des pouvoirs machin avec le bracelet qui, on a l'impression, lui a donné les pouvoirs effectivement, comme tu le disais. Mais en même temps, avec la mère, tu vois, elle veut pas que sa fille ait la tête dans les étoiles parce que visiblement, elle avait eu des problèmes avec sa mère, sa propre mère et sa grand-mère avec ces histoires-là. Et en plus de ça, on a des scènes où on voit que la mère est très influencée par la communauté, et j'adore d'ailleurs le surnom qu'il donne au groupe des Illuminantes.
Je sais pas comment c'est en français, mais Illuminantes, c'est vraiment génial.
Ouais, les Antis, c'est super. Et bref, et tu te souviens la scène quand elle essaye sa robe pour le mariage de son frère, sa mère lui dit au début, enfin il y a le tailleur qui dit non mais la robe est trop grande, non pardon, il dit votre fille est trop petite pour la robe, et la mère elle dit non mais c'est pas ma fille qui est trop petite, c'est la robe qui est trop grande. Et quand l'autre auntie arrive et qu'elle dit ah oui la fille est trop petite, la mère change de ton, tu vois, elle dit ah oui c'est vrai, tu c'est vrai t'es trop petite. Et tu vois, rien que ce genre de petits détails, ça construit le personnage et les relations. Et en même temps, là où je dis c'est pas caricatural, on voit que Kamala, quand les deux, enfin la mère et la tante, on va dire, disent il y a Machine qui était fiancée à Bidule, bah elle est partie faire un voyage en Europe. C'est pas que la fille est complètement rabougrie et qu'elle ose pas dire quoi que ce soit à ce propos. Elle se retourne et elle dit, bah, c'est bien pour elle, non? Tu vois, genre, c'est pas, là, on aurait pu avoir un truc hyper caricatural où elle ose rien dire et après elle s'en plaint à ses potes. Mais là, elle le dit. Elle a une relation qui est relativement normale et saine avec ses parents. Et elle dit quelque chose à ce propos. Ce genre de petits détails, je les ai trouvés vraiment, tu vois, précieux pour la construction des personnages et des relations, quoi.
Et ça continue. Et ça se poursuit après, justement, dans l'épisode d'après, justement à la scène de la mosquée où elle va oser quand même interpeller l'imam, et etc., quoi. Donc ouais, on sent quand même qu'on est dans un cercle social où les gens peuvent dire les choses, quoi. Il y a pas trop de, enfin, il y a pas de.
Oui, c'est pas les talibans, quoi. On n'est pas
voilà,
dans.
Voilà, il y a des dynamiques de conflit. Non, mais même, c'est vrai que même vis-à-vis des parents, elle ose dire des choses, quoi. Donc ça se passe. Elle ose demander des choses. Elle ose dire quand ça ne va pas. Donc visiblement, ça rend, on va dire, le truc un peu plus naturel, là où ça aurait pu être effectivement caricatural. Et du coup, si je voulais ajouter que cet premier épisode, il est vraiment, enfin, on a vraiment l'impression qu'il est plan par plan celui du comics. Alors du coup, il y a des adaptations. Donc c'est pas l'Avenger Con, c'est une fête. C'est une fête de lycée machin. Donc il y a des différences comme ça, mais on retrouve vraiment certaines scènes. On a l'impression que c'est les plans par plan. La façon dont elle va sauver Zoé, c'est Zoé. Hein,
Fin,
c'est exactement la même, on va dire, donc c'est le bras qui s'allonge, la main qui va la récupérer, même si dans le comics elle se noie, etc. Donc je trouve qu'il y a, c'est assez malin, quoi, en fait. C'est relativement différent, mais en même temps la structure et les sentiments un peu développés sont vraiment très très proches. Et la seule grosse différence, évidemment, c'est la nature des pouvoirs, quoi, là où. Ou dans le comics, ouais. elle est paniquée parce que du coup son corps se change machin, et là bon, là c'est un peu plus pop, un peu plus tu vois, elle est à la soirée, elle sauve tout le monde, et bon, il se passe quelque chose avec un casque, une énorme tête de Ant-Man qui s'arrête plus de qui s'arrête plus de rouler, on sait pas comment. Je sais pas si t'avais choqué ça, toi, à la fête, quand la.
Ouais, oui, non, mais évidemment, la tête elle roule et c'est complètement débile, ouais.
Ça va être jamais.
Mais tu sais, par rapport à ce que tu disais sur cette histoire l'adaptation fidèle, c'est vraiment assez incroyable la manière dont ils réussissent à prendre la structure dans certains films, hein, pas dans tous, mais surtout dans les origin stories. Souvent, on est pile sur l'origin story qui est détaillée dans certains des comics. On pense à Iron Man ou Captain America ou ce genre de choses. On est très, très proche de la structure des comics, avec des adaptations évidemment et des améliorations pour le cinéma, mais cela, c'est vraiment pile la même histoire, quoi. Et, ouais. Et ça montre à quel point ces comics sont hyper bien écrits et pensés. Ou enfin, je sais pas si on pourrait adapter n'importe quel comics aussi bien si c'était pas à la base du matériel de qualité, quoi.
Donc ils arrivent à choisir ce qu'il faut adapter, ouais, et ce qu'on peut reprendre un peu en l'état, etc., pour que ça rentre dans un univers qui est quand même complètement différent de ce qu'on lit dans les comics, quoi. Donc ouais, ça marche assez bien.
Sur les pouvoirs, il y a un truc que je veux mentionner aussi. Quand elle met le bracelet pour la première fois, elle tombe dans une sorte d'univers parallèle bizarre ou de on ne sait quoi. Et c'est parfait pour éveiller notre curiosité, parce que on est méga intrigué, quoi. Là, je suis mon côté. Il y a très peu, finalement, comme je disais, c'est peut-être 80% de la vie de Kamala et 20% de super pouvoir. Mais sur ces 20%, il y a rien que ce truc-là qui me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je veux absolument savoir, quoi, ce que c'est que ce truc où elle plonge.
Ouais, ouais. Mais du coup, après, on peut passer à l'épisode 2, hein.
Juste un mot pour dire, bon, elle rentre à la maison et puis sa mère la vue, et là encore, tu vois, c'est pas « tu es grounded pendant 2 mois », machin, c'est juste « ah, je suis déçu, Kamala, il faut pas vivre dans les étoiles », machin, bref. Mais il y a surtout le post-credit scene ou le mid-credit scene, où on voit le Department of Damage Control qui voit les vidéos Instagram de ce nouveau super-héros, de ce nouveau Enhanced Individual, et donc le gouvernement s'intéresse à Kamala Khan. Ce qui n'est pas le cas, je crois, dans les comics, je ne me souviens plus.
Non, je crois pas.
Peut-être plus dans les comics, donc ils ont moins de temps. Donc, épisode 2... on a un petit classique de l'origin story, c'est on essaye de s'entraîner pour maîtriser ses pouvoirs. Une scène que j'ai trouvée très charmante, un classique bien réussi. Et c'est là où il parle aussi du fait que les pouvoirs viennent de Kamala, mais qu'ils ont été débloqués par le bracelet. Donc toi, t'étais content.
Oui, voilà, c'est ça. Là, j'étais... Ah, bah, en plus, du coup, ça laisse aussi des perspectives sur... Ils vont essayer de continuer à comprendre ce que c'est ce truc-là, donc j'espère qu'on en saura un peu plus, même si franchement, il n'y a pas non plus besoin d'expliquer le truc en détail, mais ça m'intrigue, quoi. Ils l'ont rementionné, et puis je pense que, tu vois, s'ils ne voulaient pas en faire cas, ils auraient trouvé une autre astuce pour débloquer ses pouvoirs, pour qu'on comprenne que ça vienne d'elle, tu vois. Mais s'ils commencent par le bracelet, et qu'ensuite ils commencent tout de suite après à désamorcer le truc en montrant qu'il cherche un peu d'où ça vient, qu'il ça semble venir d'elle, ça a l'air parti pour faire partie de l'intrigue, puisque surtout il y a l'histoire avec sa grand-mère, etc. Donc
maintenant
j'ai hâte de savoir un peu ce qu'il en est, quoi.
On peut limite passer à la fin de l'épisode avec, puisqu'on parle de cette question, tout au long de l'épisode, on pensait en fait que c'était la mère de sa mère, donc la grand-mère, qui était peut-être une super-héros, mais en fait, ça semble être la génération d'avant encore, donc son arrière-grand-mère, et on en apprend un petit peu plus sur les conditions de la famille, et là encore, c'est la mère de Kamala qui est mise en avant, beaucoup plus que le père, avec l'histoire de la famille de la mère qui compte, et donc, on comprend que sur sa lignée, il y a eu des histoires, et donc que l'arrière-grand-mère, il y avait des trucs bizarres. Et à la fin de l'épisode, l'ami, comment il s'appelle, Cameron, l'aide à s'enfuir avec sa voiture, et on voit que c'est a priori, hein, on ne sait pas clairement, mais on voit qu'il y a dans la voiture, a priori, son arrière-grand-mère.
Non, dans la voiture, pour moi, c'est juste la mère de Cameron.
Ah, tu crois? D'accord, ok.
Ouais. Alors, okay. Bon, après, je suis biaisé parce que, effectivement, Cameron, c'est un personnage du comics, donc bon, je commence à situer un peu.
Ah, d'accord, moi j'avais oublié, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ok, tu commences à voir qui est qui. Bon, me spoil pas, me spoil pas.
Voilà. Non, je ne comptais pas. D'accord. Je ne comptais pas m'étaler là-dessus. Okay. Mais du coup, ça, c'est forcément lié. Oui, on sent que c'est lié justement à ces personnes-là. Ont l'air de savoir qui est Kamala. Ils ont. Ouais. Sont pas plus étonnés que ça qu'elle ait des pouvoirs, et donc ça va raccrocher, j'imagine, effectivement, avec son histoire, enfin l'histoire de sa famille passée,
Tout
d'une
à
manière
fait.
Ou d'une autre. Mais du coup, Cameron, on peut, vu qu'on l'a mentionné, on peut en parler. Super, vraiment son arrivée dans la série, comment il est traité, donc évidemment avec le coup de foudre de Kamala. Bon, ça aussi c'est du classique, hein, c'est du ouais. mais c'est bien fait, quoi. C'est quand il saute dans la piscine et qu'il sort, et puis là t'as les emojis autour de lui, là, les emojis feu et puis machin et tout.
Feu et sang,
elle a un regard, franchement elle se débrouille super bien, quoi. Elle est à fond dans son rôle. Et là, à ce moment-là,
tu sais, un des trucs, c'est tu sens à quel point elle est contente d'être Kamala Khan. C'est fou, hein. Elle est à fond, c'est vraiment ça. Elle se donne à fond et il y a de la joie qui ressort de tout ce qu'elle fait, quoi. C'est hyper mignon.
Ouais, et puis du coup, ça ouvre un peu plusieurs séquences où ils vont, une séquence en particulier où ils vont un peu parler de ce qu'ils ont en commun, tu sais, que ça soit dans la voiture.
Ouais, avec les films de Bollywood, tout ça.
C'est ça, ils vont mentionner les films de Bollywood. Et donc là, bon, évidemment, ils citent Shah Rukh Khan. Ça m'a fait rire parce que du coup, moi, c'est. Là, pour le coup, la filmographie de Shah Rukh Khan, c'est typiquement ce que j'ai, moi, de la culture cinéma indienne. J'en ai vu énormément. Donc à chaque fois qu'il est mentionné, ça me rappelle un peu tout ça. Et du coup, ce qui m'a surtout fait sourire, c'est la discussion autour de...
Avec Kingo, ouais.
Ah, exactement. et où, du coup, il explique que ses parents, ils sont plutôt fans de...
Ouais, du père. De Kingo Senior. Ouais,
Kingo Senior. Ouais, c'est Boomer qui aime Kingo Senior, alors que nous, on préfère Kingo Junior. Je trouve ça génial, c'est vraiment génial.
C'est très drôle, ouais.
Du coup, après Cameron, ça, voilà... Non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, mais on peut maintenant attaquer aussi l'autre super séquence, c'est la séquence des élections, de la mosquée, là.
Ouais, même avant, enfin, on en a déjà parlé, mais ouais. La discussion, est-ce que c'est avant ou après la discussion avec Nakia que j'ai trouvé ? Ah tiens, attends, non, j'ai oublié même un autre truc. La séquence, la même que dans le premier épisode, quand elle arrive au lycée, après avoir découvert qu'elle a des pouvoirs, elle est formidable. Et là encore, c'est pas caricatural, tu vois, tu vois à quel point, elle, quand elle se sent mieux dans sa peau, tout à coup, alors ça fait pas que le monde entier change, mais enfin, elle appréhende tout de meilleure manière. Et cette scène où, en fait, tu vois que, comme je disais, c'est pas caricatural, c'est pas que tous les autres étaient méchants avec elle, ou, bon, ils étaient clairement pas très considerate, mais... Quand elle se sent bien, elle joue avec le mec qui a son ballon de basket, tu vois. C'est pas que c'était un bully de sportif qui allait lui envoyer dans la gueule, comme au premier épisode, machin. Ouais. Et elle joue avec le truc. Elle dit aux nanas qui sont en train d'écouter avec les AirPods, tu vois, elle dit « Ah, c'est bon, poussez-vous un petit peu. Ah, mais je vous adore, tu vois. » C'est pas genre « Oh, vous me faites chier depuis 3 ans, je vous supporte pas, machin. » C'est genre « Ah, je vais juste prendre ça, ok. Continuez, vous êtes mon couple préféré, machin. » C'est tellement frais et je le dis pour la 12e fois, et pas caricatural, que c'est juste agréable à vivre, en fait. Et rien que cette scène, moi, elle m'a vraiment donné le sourire.
Ouais, non, vraiment, ça rayonne, enfin, ça, je veux le redire à chaque fois, mais la série rayonne, quoi, de bonne humeur, c'est pop, c'est frais, c'est agrémenté de visuels qui sont parfois surprenants et ultra bien faits, c'est pas mis en défaut, même les pouvoirs, on peut penser que c'est cheap, moi, je trouve pas du tout, et du coup, ça donne, en fait, ça donne un ton qui est quasiment incritiquable. Enfin, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, dans ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment super bon, quoi.
Ouais, moi, je suis pas encore 100% convaincu par les pouvoirs, mais...
Ouais, pour moi, ça y est, c'est derrière
dans
moi.
Dans le deuxième épisode, ça va mieux, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
On n'a pas parlé de Bruno, le pauvre, qui est évidemment amoureux de Kamala et qui se fait qui se fait friendzoner depuis qu'il a, on sent depuis qu'il a 6 ans, tu vois. Et surtout avec l'arrivée de Cameron, où il l'appelle, comment il l'appelle, lui c'est le seul qui l'appelle Brian. Et là encore, c'est pas genre caricatural, c'est vraiment genre non mais il sait que je m'appelle Bruno, il l'a fait exprès, tu sais, c'était. Bon, le pauvre Bruno. Et donc, on a cette scène. Je crois que la discussion avec Nakia dans les toilettes, c'est avant la mosquée ou après, je ne sais plus.
C'est après, il me semble.
C'est après. Donc, la scène à la mosquée qu'on a déjà évoquée, il n'y a pas forcément grand-chose à en dire de plus, si ce n'est, c'était très mignon le moment où elle interpelle l'imam et qu'elle dit « Ah, mais en fait, je voulais dire que machin. » Et c'était mignon. Ça a l'air d'être quand même un imam cool, tu sais. C'est le genre de... c'est pas tout à fait l'image que j'ai ni des imams, ni des prêtres, ni des figures religieuses comme ça. Et t'as parfois, dans certaines instances, genre le prêtre sympa auquel tu peux parler, lui il est dans cette catégorie quoi.
Je pense comme le directeur du lycée quoi. Je veux dire.
C'est ça ouais, c'est ça. Il y a les directeurs cool et les directeurs casse-couilles et les directeurs sympas et les boomers. Bah lui il est dans la catégorie sympa.
Mais du coup, c'est prétexte à justement lancer cette histoire d'élection quoi, où elles vont essayer de se présenter pour justement faire changer un peu les choses de leur côté. Et du coup, moi, il y a cette scène justement où ils sont à la. C'est une fête. Ça, je me souviens plus ce que c'est en fait.
Oui, c'est les fêtes de l'Aïd.
Ah oui, c'est ça, c'est l'Aïd, c'est ça. Ouais. Et du coup, je trouve cette scène, elle est incroyable où justement le but, c'est d'aller justement distribuer les tracts et convaincre
tous les différents groupes sociaux et politiques de la mosquée et de la communauté.
Et du coup, avec Bruno et Kamala et elles vont parler des différents groupes, groupes sociaux internes qu'il faut approcher et ils sont tous présentés de façon vraiment marrante quoi. Bah, on a déjà parlé des Illuminati, mais t'as les convertis, Bruno qui va aller parler aux convertis, t'as le groupe des papas, le groupe des tantes, les Instagrammeuses, le groupe des Instagrammeuses.
Comment ils s'appellent ? C'est les quabros, les super religieux là ?
Je sais plus.
Les machins bros. Et tu vois, et là encore, c'est pas. Tu vois, il n'y a pas vraiment de. C'est pas qu'il.
Pas des jugements. C'est pas.
Il n'y a pas de jugement, mais c'est pas. Ils vont pas ne pas parler du groupe des mecs hyper religieux, tu vois, dont ils se moquent un peu. C'est pas qu'ils vont pas en parler. C'est juste qu'ils les présentent d'une certaine manière. Et puis c'est sans jugement. Et c'est bien.
Bah, ça reste caricatural dans le sens où c'est des archétypes. C'est bien sûr.
Là pour le coup, toutes les cliques qu'ils font pas dans le lycée. Là, ils le montrent de manière hyper caricaturale, mais c'est dans le style de l'imaginaire de Kamala. Donc on comprend bien que tu vois, c'est exagéré quoi. Donc cette scène elle est formidable. Tu sais, en écoutant un podcast sur le premier épisode, j'ai voulu revoir le premier épisode et là en te parlant du deuxième, je vais aller revoir le deuxième.
Ah ouais, je crois, moi je vais le revoir.
Alors que
aussi.
Je l'ai vu hier. Et je vais même, je crois que si ça continue comme ça, je vais proposer à ma femme de revoir la série avec moi, parce que récemment les séries, les films, on les voit encore ensemble, mais les séries, bon, c'était moyen. Je crois que celle-là, on va y revenir et je vais lui proposer de la voir. Je pense que ça lui plaira. Bon, bref, donc ils essayent de convaincre tout le monde de voter pour Nakia, la femme musulmane forte qui essaye de prendre son destin en main et de changer les choses. Bravo. Et on a cette scène assez émouvante. Nakia était très en retrait dans le premier épisode, et là, c'est plutôt Bruno qui est un petit peu plus en retrait, on va dire. Et du coup, on a cette scène émouvante où elle parle de la manière dont elle n'arrive pas à être adaptée dans la communauté, dans sa communauté, parce qu'elle est trop blanche, et puis pour les autres, elle est trop brune. Enfin, et que au début, elle mettait le voile pour se faire intégrer, et puis finalement, elle s'y sent bien. Et c'est des questions, évidemment. Enfin, on parle beaucoup de ce sujet parce que c'est évidemment un sujet qui est important dans la série, mais on a aussi une vision qui est très différente en France de ces questions de communautaires des États-Unis, où justement ils sont aux États-Unis très communautaires mais intégrés, et nous on est dans l'idée républicaine où tout le monde
doit s'assimiler.
C'est ça. Et Et il y a des points, des aspects positifs et négatifs aux deux systèmes. Hein. Je crois que moi, ma manière de voir les choses a changé depuis que je commence à comprendre un petit peu mieux la manière dont c'est géré aux États-Unis et les problèmes que peuvent poser les questions d'assimilation aussi. Évidemment, il y a des extrêmes. Là, c'est une série Disney, fun, sympa. C'est pas là qu'on va parler des problèmes profonds que peuvent poser soit des systèmes communautaires, soit des systèmes d'assimilation. Et ils existent, évidemment. Mais j'ai trouvé que cette scène transcrit hyper bien, en quelques mots et sans jugement, sans dramatisation, les problèmes dans lesquels vivent ce genre de personnes qui ont ces problèmes personnels qui peuvent être handicapants socialement. Et c'était très bien écrit et très bien joué, quoi. Donc j'ai pas mal apprécié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ?
Oui, on peut. Bah après, je pense qu'on a, on a un peu parlé de tout ce qu'il y avait. Donc il y avait effectivement l'entraînement. Elle s'entraîne là avec, elle crée des petites plateformes là.
Ouais.
je trouve ça sympa comme effet là de pouvoir marcher un peu dans le vide comme ça. Et puis justement la perte de contrôle de ses pouvoirs à cause de l'émotion, je suppose, où il y a son nez qui devient tout à coup.
Cristallisé. Ouais.
Qui donne lieu à une scène justement. On fait le parallèle avec les règles, parce que du coup, elle va se cacher dans les toilettes, et puis sa pote lui amène un tampon, etc. Donc, ça aussi, moi, ça, c'est fou, mais l'épisode, déjà le premier épisode, j'avais déjà fait le lien avec justement Turning Red, donc c'est Alerte Rouge en français. Et là, ça continue, parce que du coup, on a aussi ces scènes-là dans le Pixar. D'ailleurs, je recommande, hein, si vous avez bien aimé l'ambiance de cette série, là, du premier épisode, je vous encourage vraiment à voir Alerte Rouge de Pixar, qui est vraiment, j'ai adoré. On est vraiment dans le même style, quoi. Je veux dire, t'as l'histoire de justement communautaire et comment elle va gérer justement sa communauté avec aussi ses potes qui sont pas du tout intégrés à ces communautés-là. Il y a les pouvoirs, machin, qui se révèlent et tout ça. Donc, franchement, c'est. J'aime la série là pour les mêmes raisons que j'ai adoré Turning Red, quoi.
C'est très bien aussi Turning Red. C'est un film, hein. C'est un film Pixar.
Oui, c'est un film.
Et du coup, donc il y a Zoé qui a maintenant presque 500 000 followers sur Instagram en parlant de.
Du coup, du épisode 1.
En parlant de son aventure avec le super-héros qu'elle appelle Nightlight.
ce qui est stylé comme...
Ouais, c'est pas mal, Nightlight. Je sens qu'elle va s'appeler Miss Marvel qu'à la fin de la série. Hein. Là, ça va être vraiment...
Avec le costume qui intègre à la fois les codes de sa personnalité et aussi les références à Captain Marvel.
C'est ça. Captain Marvel qui, entre parenthèses, était Miss Marvel avant de devenir Captain Marvel. Captain Marvel était un autre personnage. Et avant, donc, Carol Danvers, elle était Miss Marvel, si je ne me trompe pas.
Dans les comics.
Ouais. Et du coup, on a tout le passage avec Cameron, où ils vont faire leur date et la rencontre avec Youssouf. Non, pas Youssouf. Youssouf, c'est le père. Comment il s'appelle, le frère?
J'ai plus non plus.
Je me souviens plus de son nom. On l'entend. C'est pas qu'on l'entende beaucoup. On entend beaucoup parler du frère. Donc ils rencontrent le frère dans le resto. Ils sont là. Ah oui, mais c'est cousin Cameron. Comment ça va? Je me souviens de toi, machin. C'était ridicule et rigolo.
Ouais.
Et puis. Il y a la scène finale où on a le moment de super-héros où le petit était monté faire des photos en haut du clocher. Je sais plus comment il s'appelle, le clocher de la mosquée. Et c'est marrant parce que même pendant qu'il est en train de tomber, il dit lui-même « Mais pourquoi je suis monté là-haut? Je suis trop con, j'avais aucun besoin de monter là-haut. » J'ai trouvé ça très drôle. Et donc, elle va le sauver sous les yeux de tous, dont d'ailleurs quelqu'un dit « Ah, c'est Nightlight !» Ça m'a fait beaucoup rire. Et elle réussit à le sauver. C'était bien cette scène où elle lui dit, tu vois, « Ah, pense à un truc que t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimes bien manger ?» Les pizzas à la glace. Les pizzas à la glace, ok. Pense que tu prends une super part ou un bol de pizza à la glace. C'était... C'est vraiment bien trouvé. Et oui, donc après, il y a la scène du D.O.D.C. et le Cameron qui vient la sauver. Donc sur toute cette scène de sauvetage de super-héros, moi j'étais content. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, je crois. T'étais content aussi?
Oui, ça va. C'était... Oui, si, si, c'était très bien. Mais en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que finalement, les pouvoirs me gênaient pas, en fait. Je me suis dit, bon, et puis voilà.
Pareil,
et puis...
pareil.
Et puis voilà. Et puis après, bah, du coup, elle se fait pourchasser. Et effectivement... Il y a Cameron qui est là, et c'est là où tu te dis bon bah ok, il a l'air de savoir quand même globalement qui elle est, et donc du coup ça remet aussi en perspective leur début de relation. Tu te demandes quand même si c'était pas intéressé ou pas, ou s'il est sincère.
Ah bah oui, enfin, ça, clairement
c'est des rebondissements parce que c'est que le début là.
Ouais. Mais, Bruno, voilà, a encore sa chance.
Bruno a encore sa chance. Et ben ouais, c'est très très bien, Patrick.
Tu sais, ça commence vraiment bien. Il y a 6 épisodes, donc ils vont pas s'étendre pendant trop longtemps. J'ai vraiment bon espoir. Hein. Là, à ce stade, et c'est hyper différent de tout ce qui est venu avant dans les séries Marvel. Il y en a, je dirais que la moitié, je les ai bien aimés, plus c'était positif, la moitié c'était négatif. Celle-là, c'est très positif, on va attendre de voir les 6 épisodes évidemment, mais ouais, plus j'y pense et plus on en parle, plus je trouve que c'est l'une des plus réussies, tout là-haut avec WandaVision et Hawkeye, que j'avais bien aimé aussi. Ouais.
Si ça continue sur ce registre-là, ça pourrait facilement faire, pour moi en tout cas, le premier truc du MCU que je montre à ma fille, quoi, quand ça sera un peu plus âgé.
Ouais, ouais. Ah bah oui, bien sûr.
C'est des choses que je peux montrer en premier. Il y a pas de violence, et c'est assez positif. Enfin, c'est non, moi j'ai voilà, très très bien.
Ouais, ouais.
Je croise les doigts que ça se finisse pas comme Loki ou comme d'autres trucs.
C'est vrai qu'il y a eu d'autres débuts excellents, et puis après ça a un petit peu dérapé, quoi. Bon, écoute, on verra, on a encore 4 épisodes à voir, j'ai très très hâte, je l'attends déjà avec impatience le prochain. Et puis, on sera de retour. On va faire un petit détour, du coup, par l'univers des lasers, des sabres lasers, la semaine prochaine, où on vous parlera de la deuxième moitié de Obi-Wan Kenobi, que, clairement, Johan déteste. Il abhorre ce qui se passe.
J'ai pas encore vu le 5, mais...
D'accord. Voilà.
On en parlera.
Et puis, du coup, la semaine prochaine, ça sera Obi-Wan Kenobi. Et je crois que la semaine d'après, on reviendra pour les 2 épisodes suivants de Miss Marvel, du coup, puisqu'on aime bien. Ouais.
Bah oui.
Très bien. Eh bien, écoute, j'ai déjà très hâte. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec moi dans cet épisode de Super Laser Punch. Où te retrouve-t-on sur l'Internet?
On me retrouve sur Twitter, comme d'habitude, à johan_t_.
Magnifique, pour ma part c'est Note Patrick. Si vous aimez les jeux vidéo et l'E3 qui n'est pas l'E3, le Note 3, les TJV, les TDConf, on en parle dans le rendez-vous jeu. Alors c'est jeudi qu'on enregistre, donc en fonction de quand vous écoutez ceci, ça sera soit demain, soit un petit peu il y a quelques jours. Et on va passer en revue toutes les conférences. J'ai pas dit tous les jeux, hein. J'ai dit toutes les conférences, et déjà ça sera trop de boulot. Donc on se retrouve là-bas sur le Rendez-vous Jeu, un autre podcast que vous trouverez en lien sur notepatrick.com. Il y a aussi le Rendez-vous Tech, et puis tous les réseaux sociaux, NotePatrick, et bien sûr, évidemment, le plus important, le Discord, où on parle de toutes ces choses qu'on évoque dans les podcasts, dont un petit channel Super Laser Punch, où on peut parler de... Kamala Khan et Obi-Wan Kenobi notamment en ce moment, et on ne s'en prive pas, c'est des discussions sympathiques, bienveillantes, agréables, avec des gens qui parfois sont pas d'accord avec nous, mais dont on comprend bien qu'ils ont tort, hein. Ça c'est
évidemment.
Évidemment. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Ciao.